Entrez donc dans la danse des midis de culture. Deuxième partie, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à 13h. Comme promis, on sera avec Jeff Goldblum. Mais d'abord, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. C'est le succès fulgurant et inattendu du moment. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus en moins de 10 jours. Clair Obscur Expédition 33 est un jeu vidéo français salué par la critique. Le jeu a déjà obtenu la meilleure note pour 2025 et par les joueurs.
Clair Obscur, trouble de rature, trouble de rare effet. Clair Obscur, bordé aux peintures, trouvera sans air.
Alors je ne sais pas Marie si vous avez un adepte de jeux vidéo auprès de vous, mais si oui, vous avez forcément entendu cette chanson-là en boucle. Elle a déjà été téléchargée 18 millions de fois. Alors les ingrédients du succès mondial d'un jeu made in France, c'est le dossier du Point Culture du jour. Mama Paprika, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes streameuse jeux vidéo sur Twitch. Alors avant de parler du succès un peu fou de ce jeu français, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire? De quoi ça parle, Clair Obscur?
Alors, Clair Obscur Expédition 33, ça vous emmène directement dans Lumière, qui est une sorte de Paris, mais alors complètement déchiré. Il y a des monceaux de cristaux, tout est éclaté, il y a des pierres qui volent, et on incarne Gustave qui s'apprête à retrouver Sophie pour son gommage. Et on voit en face de nous qui trône cette montagne, ce monolithe avec un énorme 34 marqué dessus. On peut se balader, tout ça, pour aller interagir avec les différents personnages qui offrent certains dialogues et un peu de contexte, mais très très peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la cérémonie du gommage, en fait, c'est que toutes les personnes qui atteignent, non pas 34 ans, mais 33 ans, s'effacent de la réalité. Et en fait, c'est un décompte, parce qu'on passe de 34 à 33, et l'année prochaine, ça sera 32. Et en fait, en parallèle de ça, chaque année, il y a une expédition qui se fait vers ce monolithe pour aller voir la peintresse qui est cette déité qui, au fur et à mesure des années, fait le compte à rebours des années qui restent à vivre finalement des personnages qui composent Lumière pour essayer de découvrir ce qui se passe. Et c'est très touchant. Et je peux pas en dire plus,
non,
parce qu'après, c'est vraiment le jeu qui se lance, quoi.
Ne dévoilez pas tout, mais oui.
Ah ouais, non, vraiment.
Mais est-ce que le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arrêter ce décompte qui fait que, année après année, en fait, les gens sont de plus en plus jeunes et en fait, on va vers la fin du monde, si je vous comprends bien.
Ah, tout à fait. En fait, le but, c'est justement déjà de comprendre. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'on arrive dans un univers qui est complètement défini. On ne découvre pas les choses, on nous apporte des éléments qui sont déjà bien ancrés. Déjà, on se demande quel est le rapport à la mort, tout ça, pourquoi les gens vont volontairement vers cette cérémonie du gommage. Et donc oui, la volonté au départ du jeu, elle est assez claire parce que vraiment il y a une cinématique qui déchire le cœur alors qu'on a vraiment connu des personnages 5 minutes avant. C'est assez impressionnant. C'est vraiment de découvrir qui est la peintresse et comment on peut faire justement pour arrêter ce compte à rebours puisque au fur et à mesure les gens s'effacent, les gens se font gommer.
Visuellement, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pourriez nous décrire, alors sans tout nous dévoiler, mais peut-être un ou deux paysages dans lesquels vous évoluez, à quoi ça ressemble? On est dans une fable post-apocalyptique?
Alors, non, pas trop en fait, parce que vraiment le post-apo, comme il est défini notamment dans le jeu vidéo, on va penser à des jeux comme Fallout, où il y a vraiment des univers qui sont à la fois désertiques et mécaniques, ça va plutôt être ça le post-apo. Là, pour le coup, on est dans le 12e. Hein. On est dans le 12e, on est de 12e arrondissement de Paris, on est place Vendôme, c'est Lumière, c'est vraiment la représentation de Paris, il y a même une tour Eiffel qui est complètement biscornue. Et toute l'autre partie, c'est vraiment plus du fantastique, beaucoup de végétation, il y a un rapport à la nature qui est très très présent et on peut se le dire, c'est magnifique et c'est un jeu qui est tellement bien optimisé pour tourner sur les PC aujourd'hui par rapport à des énormes blockbusters qui peinent sur certaines configs. C'est vraiment magnifique comme jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est très bien défini.
Je voulais revenir avec vous justement sur ces références à la France et à Paris notamment. Elles sont nombreuses dans ce jeu-là. Est-ce que c'est un jeu qui assume clairement son origine française? Il faut le dire, c'est un studio français qui l'a créé, ce jeu-là.
Oui, bah c'est assumé complètement. Il y a des, enfin, on est vraiment sur le oui, ron baguette.
Oui, vous parliez de la Tour Eiffel.
C'est ça. Il y a la Tour Eiffel. Enfin, il y a vraiment, c'est absolument pas.
C'est le Paris un peu carte postale.
Alors oui, alors c'est le Paris Carpostal 1900 surtout.
Oui, on est dans l'univers de la Belle Époque, hein.
Ouais, exactement, c'est ça. Et ce qui est assez agréable aussi, c'est qu'il y a des éléments de langage qui sont utilisés, qui sont typiquement français. Pour vous en donner un, il y a un personnage que j'adore qui dit à un autre « Qu'est-ce que t'as pris cher ?» C'est quelque chose qui ça ne se retrouve pas ailleurs. Enfin voilà. Et il y a un costume qu'on récupère à un moment. C'est vraiment la marinière, le béret et une baguette dans le dos. C'est complètement assumé, oui.
Il y a la chanson aussi, hein, la bande originale. On a écouté quelques mesures en introduction. Elle est en français, mais les paroles, alors j'ai cherché, hein, c'est assez incompréhensible. Je voulais juste vous les redire. Clair-obscur, trouble de rature, courbera, Eiffel. Moi, j'ai eu l'impression que finalement, ce qu'ils cherchaient, c'était le son du français plutôt que le sens, non ?
Oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a dans les paroles, parce qu'en plus, quand on écoute, on a l'impression d'entendre aussi de l'anglais, du japonais aussi. La BO, d'ailleurs, elle est extraordinaire. Je crois qu'il y a 8 heures de bande-son, ce qui est énorme pour un jeu, vraiment, parce que de ce que j'ai cru comprendre, moi, j'ai pas encore fini le jeu, mais il a une durée de vie de 40-45 heures, qui est une très belle durée de vie, mais c'est pas forcément ça qui va faire la qualité d'un jeu. C'est énorme, en fait, 8 heures. Ça veut dire vraiment qu'il y a une piste pour pratiquement chaque environnement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie... Moi, je rencontre des personnages, je combats des boss, j'explore des zones. Et très souvent, la musique, elle est différente. Et je pense que ça fait aussi partie du succès de dire qu'il n'y a pas de redondance, en fait. Lorsqu'on explore un endroit... On explore certes la zone, certes la faune, j'ai un peu envie de dire, mais aussi l'ambiance audio qui est très très importante.
Alors dernière question avant de conclure cet entretien, Mama Paprika, comment comprenez-vous ce succès ? On parle quand même de plus de 2 millions hein, de jeux vendus en 10 jours, et c'est un succès à la fois critique, je crois que le jeu a obtenu la meilleure note, et public. C'est quoi les ingrédients qui amènent à ce succès-là selon vous ? Puisque vous êtes en train d'y jouer en plus.
En plus, moi, j'y joue là. Moi, je suis à fond. Je me tape les veines, voilà, littéralement, comme on dit, pour continuer à jouer. C'est un. Je pense que le succès, il tient en plusieurs éléments. Déjà, le jeu est beau. Le jeu est vraiment, vraiment très, très beau. Et comme je le disais, il tourne sur beaucoup de configurations de PC. Il tourne très, très bien sur console également. Mais le succès, il tient vraiment sur les graphismes. La BO, le système de combat aussi. Moi, c'était quelque chose où j'étais très surprise de voir qu'un jeu en tour par tour, d'ailleurs un RPG, donc un role-playing game, puisse avoir autant de succès et attire autant. C'est pas forcément des types de jeux qui sont le plus souvent attrayants. Il y a quelques jeux comme Persona, notamment Persona 5, qui a eu aussi ce petit renouveau du JRPG, du Japanese RPG. Et moi, je suis très surprise justement de voir que le tour par tour, qui n'est pas forcément justement un gameplay, donc une manière de jouer qui est attirante, on est plus sur de l'action, puisse plaire, mais il y a aussi ce côté de réflexe, il y a de la parade, tout ça à faire. Et je pense que c'est en fait, ils ont réussi à vraiment concaténer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui font le succès d'un jeu, et ils l'ont très bien appliqué. Et on aime aussi ce jeu qui nous titille la rétine, à des moments-là, et puis surtout, on se bat contre des êtres qui sont parfois gigantesques, et il y a cette satisfaction quand on fait une parade, qu'il y a un contre, tout ça, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça fonctionne, mais c'est, en fait, je pourrais raconter tout le jeu, en fait, mais bon.
Ah non, il faut pas.
Je pourrais vraiment donner l'intégralité des éléments qui font que, mais si je devais en récupérer 3, ça serait la BO, les graphismes, et l'histoire. Mais vraiment, l'histoire, c'est déchirant dès le départ, et on a juste envie d'avancer, on a juste envie d'explorer. Et moi, j'ai pas ressenti ça depuis quelques années avec un jeu où je suis vraiment, je veux tout savoir, je veux tout voir, je me prends des fois je me prends des raclées des fois, mais je me dis, c'est pas grave, j'y retourne, je vais faire un tour, tout ça. C'est très, très, très agréable d'y jouer, et j'invite vraiment tout le monde à y jouer. Il est disponible sur beaucoup de plateformes. C'est quelque chose aussi qui, je pense, pèse dans la balance.
Eh bien, merci beaucoup. On va vous laisser retourner jouer. J'ai l'impression que vous avez très envie d'y retourner. Merci beaucoup, en tout cas, Mama Paprika. Merci.